Je sens une certaine pression pour la prédication de ce matin, n'est-ce pas? Alors je ne sais pas s'il faut du coup que je raccourcisse ma prédication ou si c'est une communication indirecte en me disant « Fred, tes prédications sont un peu trop longues. Peut-être faudra-t-il raccourcir un tout petit peu. » Cela étant dit, nous allons quand même ouvrir la parole de Dieu ensemble. Dans un contexte un peu particulier, vous le savez, Philippe l'a rappelé, nous sommes dans la période de la rentrée. Les médias l'ont relayé, la réforme du collège, enfin bon, j'en passe. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées d'abord dans l'été et puis qui se mettent en place pour cette année qui vient, avec des questionnements pour notre société, pour notre Église. Et vous n'êtes pas sans avoir remarqué aussi que l'odeur du cuir des cartables a laissé place à l'odeur du cuir des bandoulières, des armes qui protègent un certain nombre d'écoles et de collèges. On est dans un contexte un peu particulier, une rentrée un peu particulière. On ne se demande pas simplement « est-ce que mon enfant va réussir cette année ? Est-ce qu'il va bien s'intégrer ?» On se pose aussi la question de « qu'est-ce que cette année va donner ? Comment vivre dans ce monde réel en tant qu'Église ?» Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces questions-là. Il y a peu, je discutais avec quelqu'un, ma belle-sœur. J'ai perdu il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui était important pour moi, à différents égards. Et avant que cette personne quitte ce monde, je discutais donc avec ma belle-sœur et elle me disait « Mais comment tu peux croire encore quand tu vois ceux et celles que tu aimes malades partir à tout âge ?» Et je lui ai répondu simplement et humblement que plus le temps passait, plus je lisais et la Bible et le monde dans lequel nous évoluons, plus je suis convaincu de la cohérence du message de l'Évangile. La mort comme dernier ennemi, la capacité de l'homme à faire du mal à son prochain, la nature qui souffre également de ce mal, et j'en passe. Mais il y a une profonde source d'espérance dans cet Évangile que nous allons ouvrir ensemble, dans cette bonne nouvelle que le Seigneur nous appelle à transmettre. Alors l'idée étant de cette année, Philippe l'a évoqué, de partir de relations, de nos relations. Et je voudrais simplement que nous nous lancions dans cette thématique de cette Église en marche, chrétien dans un monde réel, les défis du chrétien dans un monde réel. Alors pour bien faire, pour bien vivre cette entrée en matière, il faudrait peut-être trouver un texte joyeux dans la Bible, un texte qui nous appelle, qui nous exhorte et qui nous entraîne à aller de l'avant. Ben, je vous propose ce matin la lettre d'un prisonnier pour méditer, celle de Paul en prison, qui s'adresse à l'église de Philippe, église qui se situe dans la région nord-est de la Grèce, une église qu'il a fondée lui-même. D'ailleurs, c'est un récidiviste, parce qu'à l'époque même, il était déjà en prison, mais il chantait et il priait, et il a été délivré miraculeusement. Et voici, quelques années plus tard, il va s'adresser à cette même église, et c'est ce que nous allons lire ce matin, chapitre 1 de la lettre aux Philippiens. Voici ce que nous lisons. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, salut tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, appartiennent à Dieu et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et leurs assistants. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donne la grâce et la paix. J'exprime à Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous et en toute occasion. Et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu. Car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement, au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous. Et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde. Aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin, je vous aime tous de l'affection que porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus, en connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez pur et irréprochable au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui, chargé d'œuvres justes, ce fruit de Jésus-Christ, que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Un texte dense, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais comme on écourte mon temps ce matin, je tirerai simplement trois leçons. Trois leçons qui peuvent nous aider à relever ce défi en tant qu'Église, dans ce monde réel dans lequel nous vivons. La première leçon commence par un mea culpa. Que je ne sais pas si vous avez vu le titre, mais c'est les défis du chrétien dans un monde réel. Et en réalité, la première leçon que nous donne Paul, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et c'est un secret pour personne. L'Église est le rassemblement d'individus de tout âge, de toute origine, de toute condition sociale. L'Église est une association d'individus. L'Église n'est pas un club privé, ni une association en réalité comme les autres. Parce qu'en fait, c'est là aussi le message de Paul, nous sommes des endettés de la grâce. Lorsque je me tourne vers le Seigneur, je suis agglutiné, rassemblé, avec d'autres endettés de la grâce. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Endetté de la grâce. La grâce, c'est gratuit, et endetté, c'est d'avoir une dette. Qu'est-ce que ça veut dire que cette expression ? Imaginez un jour, un individu comme ça, dans la rue, passe et vous donne une belle enveloppe avec 10 millions d'euros dedans. Vous allez dire, chouette, c'est super, c'est un don. Mais je me tourne vers les comptables qui sont parmi nous, Alex, Marie-Claude, Elisette. D'un point de vue strictement comptable, il y a un flux financier d'un créancier vers un débiteur. Donc même si c'est un don, vous êtes quand même débiteur de celui qui vous l'a donné, n'est-ce pas ? Eh bien, pour Dieu, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Il nous donne tout, mais quand on est face à lui, on ne peut rien lui donner. Nous sommes comme endettés. Nous sommes des endettés de la grâce. Il nous donne tout. Je ne mérite rien. Je n'ai rien à faire de plus pour qu'il m'aime plus. Il me donne tout. Je suis comme endetté vis-à-vis de Dieu. Mais comme c'est la grâce, ben, alléluia, les amis. Alléluia. Et cette conviction d'être endetté de la grâce doit nous nourrir notre louange, notre adoration. Quelle reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Celui qui nous donne tout. Nous le donne gratuitement. Mais il y a une autre réalité derrière ça. C'est que si vous regardez à votre droite et à votre gauche, celui qui est à votre droite et à votre gauche, celui qui est devant et derrière, est aussi un endetté de la grâce. Comme Paul se présente comme serviteur face à face, face aux Philippiens, nous sommes des endettés de la grâce. Celui qui est à votre côté ne mérite pas plus, pas moins, vis-à-vis de Dieu. Le regard change alors. Il a la même part à la grâce divine que vous. Ni plus, ni moins. Pas question donc de le regarder avec un air de supériorité ou d'infériorité. Nous sommes sur le même banc. L'humilité, c'est ce aussi à quoi nous invitera Paul dans cet épître que nous allons égrener au gré des dimanches et de nos études bibliques. Paul nous invite, me semble-t-il, à considérer nos relations ensemble un peu différemment. Un peu différemment. En reconnaissant que nous avons besoin les uns des autres. L'Église n'est pas le lieu d'une prestation de service fait par quelques-uns pour le bonheur d'autres. Nous avons besoin les uns des autres. Philippe, j'ai besoin de ta sensibilité pour grandir dans ma foi. Émile, j'ai besoin de ta sagesse pour grandir dans ma foi. Claude, j'ai besoin de toi, de tes connaissances techniques pour arranger différentes choses ici. Luciana, j'ai besoin de toi pour apprendre à pardonner. Nous avons besoin les uns des autres. Le temps nous manque, mais nous aurions pu prendre juste le temps, ce matin, de nous regarder et dire « Mais j'ai besoin de toi, Daoudi, pour grandir dans ma foi, dans ce monde réel. » Nous avons besoin les uns des autres. L'Église n'est pas un club de golf où on joue chacun pour soi. C'est une équipe de foot, de hand ou je ne sais quoi, un sport collectif, où on coordonne ensemble nos efforts en ayant conscience qu'on a besoin des autres. On n'y arrivera pas seul. Nous avons besoin des autres pour apprendre à aimer, à pardonner, à prier. Même, ça commence d'abord en Église. Et pourtant, c'est vrai que dans l'Église, tout le monde est aimable, sans défaut, parfait, donc ça va. Mais nous avons besoin les uns des autres pour grandir dans notre foi, pour apprendre à aimer, à témoigner de notre foi, même dans l'adversité. Paul est en prison, mais il est rassuré, joyeux, parce que les Philippiens prennent le relais. Et notre perspective change aussi sur l'Église, me semble-t-il. Malheureusement, l'Église, les responsables d'Église, ne sont pas toujours au rendez-vous. Pas ceux ou celles que nous voudrions qu'ils soient. Ils ne sont pas parfaits. C'est triste, c'est affligeant même parfois dans certaines situations. Mais la Bible nous dit ces choses normales. L'Église est faite d'hommes et de femmes imparfaites. Alors être déçu de l'Église, c'est normal. C'est normal. Être déçu d'un ou d'une responsable, c'est aussi chose normale. Cela étant dit, l'apôtre Paul nous invite à voir autrement les choses et à nous demander, au fond, si les autres ont besoin aussi de moi, que puis-je faire pour aider, pour contribuer à ce que les autres grandissent dans leur foi? Que puis-je faire pour moi aussi contribuer à la vie de cette Église, même si elle n'est pas parfaite? Nous sommes dans une Église qui est en marche, pour reprendre l'expression de M. Macron, n'est-ce pas? Mais nous sommes sincèrement en marche sous le regard de Dieu. Oui, première leçon que nous laisse Paul, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres en Église. Et ça nous pose un défi, chers amis, pour cette année, pour cette rentrée. Ça nous pose une question. Quelques questions. Qu'est-ce que je suis prêt à faire ou à mettre en place cette année pour mieux connaître l'autre, que ce soit dans l'Église, que ce soit au travail, à l'école? Est-ce que je suis aussi prêt à reconnaître humblement mon besoin de l'autre? Et est-ce que je suis prêt aussi humblement à répondre à ces besoins, s'ils sont exprimés? Deuxième leçon qui est liée à cette relation, c'est l'amour du prochain, l'amour en premier. Vous avez remarqué comment Paul exprime sa tendresse. Et pourtant, Paul, ce n'est pas forcément un habitué des grands effluves sentimentaux. Je vous porte dans mon cœur, je vous aime, dit-il. Et il répète, je vous aime. Il prend même Dieu à témoin. Il n'a pas intérêt à mentir, Paul. Paul dit qu'il aime les Philippiens. Et il nous invite à considérer l'amour en premier. Ce n'est pas le nombre de choses que vous faites qui compte, disait Mère Teresa, mais combien vous aimez. L'amour en premier. Facile à dire quand le collègue de travail est pénible, quand la maîtresse ou l'instit ou le prof n'est pas terrible, que j'ai plutôt envie de donner un petit croche-pied à mon camarade. Imaginez donc que vous ayez à dire à votre épouse ou à quelqu'un qui a préparé son repas combien... C'était un peu trop cuit. Ou imaginez que vous ayez à dire à votre mari que sa cravate ne va pas très très bien avec son costume. Dire la vérité, ça peut être facile, mais Paul nous dit l'amour en premier. Dire, agir, c'est bien, mais Paul nous dit vérifie bien que le tout est entouré d'amour. C'est quand même un sacré défi, hein, qu'élargir l'espace du cœur pour aimer, y compris les gens qui ne sont pas aimables. Un amour qui donne tout, sans limite. Comme celle de cette mère qui, un jour, voulait plaider pour son fils au tribunal. Elle va voir le juge et plaide pour son fils. Un fils qui haïssait tout le monde, y compris sa mère même. Et elle va devant le juge pour persévérer, pour plaider pour lui. Mais le juge ne peut rien faire. La loi, c'est la loi. Et puis il dit à cette mère, « Mais après tout, il vous déteste au plus haut point. Laissez tomber. » Mais la mère répond au juge, « Ça, je le sais. Mais moi, je l'aime. Aimer sans limite, sans attendre rien en retour, aimer sans condition, c'est un amour impossible humainement. » Et c'est ce pourquoi Paul enracine cet amour dans celui de Dieu pour nous, dans cette présence de Dieu en nous. « Je vous aime, dit-il, je vous aime. » Et il a la conviction que le Seigneur va aider. Au verset 6, il est convaincu que cet amour qui est en train de naître va progresser et ira jusqu'au bout. Mais cela en tenant simplement sur les forces que Dieu donne. L'amour résulte de l'action de Dieu dans notre cœur. C'est que ce que Paul dit à ses Philippiens au verset 6. Dieu agit en nous pour produire l'amour, même vis-à-vis de celui que nous n'aimons pas naturellement, celui qui nous... Vous voyez ce que je veux dire. Cela étant dit, si Paul est convaincu que c'est Dieu qui produit l'amour, il nous invite quand même à progresser. On ne va pas rester baillis comme ça sur un transat en attendant que Dieu produise en nous gentiment l'amour. Il nous invite à progresser. Et vous connaissez certainement cette petite histoire. C'est un jeune homme qui veut déclarer sa flamme à sa fiancée. Et il va la voir, il va dire « Chérie, ma douce, tu sais, je n'ai pas de Mercedes comme Paul. Je n'ai pas d'appartement comme Paul. Je n'ai pas non plus de yacht comme Paul. Mais il y a une chose que j'ai, c'est que je t'aime. » Et la jeune fille lui répondit, « Ça, je le sais. Et est-ce que tu pourrais pas m'en dire un petit peu plus sur Paul ?» Nous avons quand même à progresser dans cet amour sans limite. Un amour qui ne regarde pas aux apparences. Et Paul nous dit, continuez de prier, de progresser dans cet amour, en deux directions, la connaissance et le discernement. La connaissance, c'est de plonger ses regards dans la parole de Dieu, apprendre combien il nous aime, apprendre combien il aime le monde, combien il nous aime chacun, quelle est sa volonté pour ce monde, quel est le plan pour l'humanité. Si on se nourrit de ça, ça va nous pousser à aimer. Et l'autre direction, c'est le discernement. Apprendre à bien agir en fonction de cet amour. Apprendre à mettre en pratique notre amour. C'est un message incroyable. Incroyable. L'amour, disait Martin Luther King, est la seule force capable de transformer un ennemi en ami. Alors, on peut dire que c'est des belles paroles. Mais lorsque l'on entend ce témoignage de ce combattant de Daesh, nord-syrien, venu dans un camp jordanien de réfugiés pour assassiner les chrétiens, et qu'il abandonna tous ses plans meurtriers après avoir entendu l'Évangile et surtout après avoir vu l'amour des chrétiens. L'amour est un message incroyable. Alors là aussi, nous avons un défi. Qu'est-ce que je suis prêt à faire ou à mettre en place dans l'Église, à l'école, au travail, pour mieux aimer l'autre. Troisième leçon, et ça sera plus court, c'est la joie. la joie. Un homme en prison écrit une petite lettre de 4 chapitres et parle de joie 14 fois en 4 chapitres. Une joie qui transcende nos réalités. Objectivement, Paul est dans une situation un peu critique et il nous parle de joie. Comme celle de ce vieil homme qui un jour prenait les transports en commun. Vous l'avez pris souvent déjà. Vous savez que ce n'est pas forcément le lieu de grande joie. Et ce vieil homme s'arrête auprès d'une dame et lui dit « Je voudrais vous remercier, madame. » Et cette dame lui dit « Mais pourquoi voulez-vous me remercier ?»« Parce qu'à chaque fois que je passais à votre guichet pour acheter un ticket de bus, vous aviez un sourire et vous me disiez « Bonjour ». Personne ne peut toujours être heureux comme ça. Il y a quelque chose. Et puis un jour, alors que vous veniez au boulot, je vous ai vu avec cette petite Bible. Et je me suis demandé, ne serait-ce pas là la source de ce joli sourire? Ne serait-ce pas là? Alors j'ai acheté une Bible, j'ai découvert le Christ et moi aussi. J'ai découvert ce message joyeux d'un Dieu qui aime. Je voudrais vous dire merci, madame. Merci. Paul se réjouit au milieu de l'adversité, dans un monde réel. Et il nous laisse ce message, cet appel à la joie. Et chers amis, même si le temps me presse, je me réjouis de vous voir ce matin. Je me réjouis. La joie n'est pas l'absence de doute, de trouble, d'épreuve, mais c'est la profonde conviction que Dieu nous tient dans sa main, qui nous donne sa paix, sa sérénité. Alors en conclusion, brièvement, comment vivre cette rentrée? Quels sont les défis qui sont devant nous et comment vivre ces défis en tant que chrétiens, au pluriel, dans ce monde réel? Une réponse. La première, et si on commençait par cultiver plus nos relations, à mieux apprendre à nous connaître, à développer notre affection les uns envers les autres. Le dimanche matin, c'est bien, on va vivre un petit temps d'apéro tout à l'heure aussi, mais il existe d'autres lieux de partage, de ressourcement, de prière, d'autres lieux où on peut apprendre à mieux se connaître. Je pense à ces foyers de vie que sont les groupes de maison, à ces réunions de prière, à ces études bibliques, des choses qui peuvent être rébarbatives a priori, ou dire « Oh, j'ai pas envie d'y aller, j'ai autre chose à faire ». Mais si je considère que c'est le lieu où je peux grandir dans ma foi, que si j'y vais pas, je vais manquer aux autres, parce qu'ils ont besoin aussi de moi, de mon expérience, de mes connaissances. Ça change tout. Si nous cultivions notre sensibilité aussi aux besoins des autres, et si on apprenait aussi humblement à dire « j'ai besoin de toi pour vivre ma foi ». Je ne suis pas Superman, super costaud. J'ai des douleurs, des épreuves. J'ai besoin de toi pour vivre ma foi. Et pour la deuxième question, pour ce monde réel. De quoi ce monde réel a-t-il besoin? 3 suggestions rapidement que je ne développerai pas. La première, je pense que ce monde réel a besoin de personnes capables de relever le défi d'être ensemble, de reconnaître le besoin l'un de l'autre, quelle que soit sa condition, son origine, son âge. Le monde a besoin de voir ça, de voir l'Église vivre. Deuxième chose, le monde a besoin d'une joie, d'amour, qui sont les fruits de Dieu. Et troisième point, la prière, sans quoi rien n'est impossible. 3 choses que nous pouvons apporter ensemble, en les vivant, ensemble d'abord, en ouvrant les portes de notre temple et surtout en allant rejoindre ce monde réel tel qu'il est. Chers amis, que Dieu vous bénisse, nous bénisse tous, qui nous donne sa paix et sa joie pour vivre cette rentrée et cette année dans ce monde réel. Amen.